Donc, bonjour à tous, je m'appelle Camille Rompré, je suis titie au cégep de Saint-Jérôme en sciences humaines. Je suis présentement en compagnie de Annie Obomsawen qui est là pour parler des Premières Nations. Donc, bonjour, je suis vraiment contente que vous soyez là avec moi aujourd'hui.
Oui, merci beaucoup, je suis très contente d'être là aussi.
Annie Obomsawen, elle est d'origine Abénakis. C'est une professeure de philosophie au cégep de Saint-Jérôme et elle est entre autres responsable de l'élaboration et de la mise en œuvre du plan d'action de sécurisation culturelle des Premières Nations pour les trois campus du cégep de Saint-Jérôme. C'est aussi une militante pour les droits des Premières Nations, puis elle est régulièrement invitée à faire des conférences pour parler du sujet. Donc c'est ça, mon sujet c'est les Premières Nations, donc les peuples qui occupaient le territoire du Canada avant que les colons arrivent. En fait, mon but c'est de comprendre l'impact qu'ont eu les colons et de mieux comprendre leur histoire et leur culture. Des Premières Nations, pas des colons. Donc ma première question c'est qu'on vous a longtemps appelé les Indiens de façon péjorative. Ensuite, il y a eu les Amérindiens, les Autochtones, il y a les Premières Nations, les premiers peuples. C'est quoi la meilleure façon de vous nommer aujourd'hui? Puis comment ça contribue à la réconciliation?
Excellente question. La manière la plus meilleure pour nous appeler, c'est quand on sait exactement à qui on s'adresse et qu'on est capable de nommer la nation exacte. T'sais, par exemple, moi je suis de la nation Abénakis, donc si on parle de ma nation, ben ce serait préférable de dire ben chez vous les Abénakis, chez vous les Innus, chez vous les Atikamekw, etc. Mais à défaut de pouvoir nommer toutes les nations, parce qu'il y en a vraiment beaucoup, tu sais, il y en a 11 déjà juste au Québec. Ben là, après, ben il faut savoir un petit peu comment regrouper les nations. Bon, déjà, utiliser le terme nation, c'est un terme approprié parce que ça reconnaît d'une certaine manière le statut, disons, politique, juridique qu'on avait avant la colonisation. C'est-à-dire qu'on était des nations indépendantes, socialement complexes, avec une structure politique, de gouvernance, etc. Donc, de nous nommer comme des nations, c'est comme faire honneur, si on veut, à cette identité-là propre qui est la nôtre. Quand on parle de Première Nation, on réfère à tous ceux, toutes les nations qui ont été sous la loi et qui demeurent sous la loi sur les Indiens. Certaines nations ne sont pas sous la loi sur les Indiens. Il y a notamment les Métis. Les Métis, c'est vraiment là, une nation qui est métissée, là, le terme le dit, entre les Canadiens français et certaines nations autochtones. Mais là, ils ont développé une langue qui s'est métissée, où est-ce qu'on retrouve du français, de l'anglais. Tu sais, il y a des ceintures fléchées, du violon et du tambour. Là, OK? Ils parlent le Métchif, carrément une autre langue. Donc là, on parle des Métis. Eux autres sont nouvellement reconnus. Donc, on ne les entre pas dans la loi sur les Indiens. Donc, on ne fait pas partie des Premières Nations. Et sinon, la troisième catégorie, il y a aussi les Inuits. Les Inuits qui vivent dans le Grand Nord, eux autres ne se considèrent pas comme des Premières Nations non plus. Ils sont arrivés sur le territoire qu'on appelle aujourd'hui Canada plus tard dans l'histoire que les Premières Nations. Évidemment, pour nous qui vivons dans un horizon où est-ce qu'on pense au Canada dans les 400 dernières années, on se dit « oui, mais ils étaient là bien avant les Européens », tu sais, et c'est vrai, sauf qu'eux autres même perçoivent qu'ils sont tardifs dans l'arrivée au Canada versus les Premières Nations qui sont là depuis des millénaires, tu sais. Bon, moi, je pense que le terme « premier peuple » est intéressant pour l'idée de l'antériorité de la colonisation. Mais sinon, autochtones, Premières Nations, ce sont des termes intéressants aussi, mais c'est ça qui est un peu particulier, c'est que quand on a une histoire complexe, un rapport complexe à notre identité parce qu'on a essayé de la changer, ben ça peut pas faire autrement que de nous mettre dans une espèce de fouillis comme ça, là. Fait que, tu sais, Premières Nations, premier peuple, ou sinon directement la nation de la personne à qui on s'adresse idéalement.
OK. Parfait. Sinon, qu'est-ce que ça signifie pour vous la Journée de la vérité et de la réconciliation? Puis, est-ce que vous pensez que c'est suffisant pour espérer une réconciliation?
La Journée vérité et réconciliation, ça trouve à être une demande dans le rapport final qui a été fait sur toute la commission vérité et réconciliation. Donc, il y a plein d'Autochtones qui ont vécu des sévices dans les pensionnats et qui avaient des recours individuels auprès du gouvernement parce qu'ils avaient vécu des choses atroces, comme on le sait maintenant. Mm-hmm. Si bien qu'à un moment donné, plutôt que de faire des poursuites à la pièce, donc chaque individu qui poursuit le gouvernement, ben, on a décidé de faire un espèce de recours collectif. Et en fait, c'est le plus gros recours collectif du Canada qui a été fait. Mm-hmm. Alors, il y a eu une enquête vraiment là, nationale où on a entendu la vérité, dans le sens où donner la parole aux gens qui avaient vécu les pensionnats pour qu'on sache qu'est-ce qui s'est passé, tu sais, pour qu'on sache c'est quoi la vérité, parce que ça a été caché, parce qu'on avait honte, parce qu'on niait que ça avait eu lieu. Alors, toute l'étape de vérité où on parle de ces réalités-là était super importante. Et donc, puis après, ben, vient l'étape de la réconciliation. Et donc, dans le rapport final, si on veut, de cette grande commission-là qui a eu lieu, là, de vérité et réconciliation, il y avait l'instauration d'une journée vérité et réconciliation au Canada. Pour que, à cette journée-là précise, on se rappelle ces vérités-là, donc qu'est-ce que les Autochtones ont subi et subissent encore parce qu'il y a des séquelles de ça qui sont très, très, très vivants. Là. C'est complètement fou. Là. Hier, mon garçon va dans un CPE autochtone, OK? Puis il y a une éducatrice autochtone qui est passée vraiment vite derrière moi, puis elle dit excuse-moi, puis elle est passée plus loin. Et puis, 10 secondes après, je la rattrape parce que c'était arrêté pour regarder son téléphone. Puis là, je l'ai comme chatouillé dans le dos en passant, puis je lui ai dit « Excuse-moi! » Mais elle s'est retournée et elle a hurlé, là, mais c'était un cri vraiment... elle hurlait comme si j'étais en train de la poignarder, tu sais. Puis elle dit « Ah, excuse-moi, PTSD! » Puis j'étais comme... Tu sais, juste un petit truc comme ça, tu comprends, chatouiller dans le dos, là, tu sais, c'est fou comme à quel point c'est dans la chair, tu comprends, des gens encore. Fait que, tu sais, les traumas sont encore tout à fait réels, tout à fait d'actualité, tout à fait, tu sais, vrai aujourd'hui. Fait qu'une journée comme celle-là, c'est comme, en mon sens, un point de départ qui est nécessaire. C'est une des actions qui est nécessaire, mais il y en a beaucoup d'autres, des actions qui ont été mises dans ce rapport-là, tu sais, pour dire qu'est-ce qu'on devrait faire, qu'est-ce qu'on doit faire pour améliorer la condition de vie des personnes autochtones. Puis malheureusement, la plupart des actions qui ont été nommées, elles n'ont pas été réalisées encore, tu sais. Puis ça, c'est ça. Souvent, ce qu'on a fait dans l'histoire, c'est qu'on a fait des rapports, on a essayé de voir c'est quoi la situation, puis on s'est donné des recommandations, mais on ne les fait pas. Ce qu'on appelle des documents tablettés. T'sais. Donc, c'est un peu ça la réalité, malheureusement, mais il y a quand même des choses qui se font.
Oui, OK. Puis, si ça vous parlez des gestes qui ont été nommés dans le rapport, est-ce que nous, mettons plus personnellement, on peut faire des gestes qui aident à cette réconciliation-là puis à cette vérité-là?
En fait, un des problèmes qu'on a, c'est que la plupart de la population n'a pas eu d'occasion d'entendre parler des réalités autochtones. Mm-hmm. Je te donne un exemple mien, OK? Je suis autochtone, je m'intéresse à ces réalités-là. Puis en plus, j'ai étudié dans un domaine, quand j'étais à la maîtrise à l'université, je m'intéressais aux questions de justice sociale, OK? Puis en aucun cas, dans tout mon parcours, on m'a présenté des sujets autochtones qui aurait pu m'intéresser, mettons, on ne m'a jamais présenté d'auteurs autochtones, on n'a jamais parlé de ces réalités-là comme étant quelque chose auquel on pouvait s'intéresser d'un point de vue scolaire, tu comprends? Mais pourtant, j'étais dans un domaine où est-ce que ça aurait été très, 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 très facile. Mais mes profs n'avaient pas entendu parler de ces réalités-là. Tu comprends? Fait que c'est comme si on perpétuait tout le temps une espèce d'ignorance d'une génération à une autre. Donc moi, qu'est-ce que je peux faire dans ma réalité à moi, tu sais? Et tout le monde un peu dans sa sphère, ses différentes sphères d'activité, tu sais. Donc, je pense que l'auto-éducation est une clé importante. Puis ce qui est merveilleux, c'est qu'il y a de plus en plus de contenus autochtones accessibles et vraiment d'une très grande qualité. S'auto-éduquer pour mieux comprendre les réalités autochtones, si une grande partie de la population faisait ça, ça changerait, ça transformerait un petit peu partout la société, tu sais. Mm-hmm. Parce que c'est sûr que, tu sais, on peut avoir des actions très spécifiques, mettons les corps de police, on peut cibler des gens comme qui ont une relation très directe avec les peuples autochtones, mais c'est pas la réalité de tout le monde, tu sais. Mais je pense que plus on en apprend, plus on en découvre, plus on a de l'intérêt pour ces questions-là, plus on va être capable d'être nous-mêmes des acteurs de changement. Quand à un moment dans notre vie, ça va être pertinent qu'on lève la voix. Donc, je pense que ça a une très, très grande portée, tu sais, si on le voit à l'échelle plus large, tu sais.
Mm-hmm. OK. Puis, vous avez en partie répondu à ma question, mais, tu sais, je me souviens vaguement d'avoir entendu parler des Premières Nations en secondaire 3, je crois. Donc, qu'est-ce que vous pensez de la manière dont c'est enseigné à l'école?
Je pense qu'il y a du progrès qui a été fait. Je ne suis pas au courant du détail de comment c'est enseigné mm-hmm. ou du contenu exactement. Ce que je reproche souvent, par contre, à l'éducation primaire, secondaire, à l'égard de l'enseignement des Premières Nations, des premiers peuples, etc., c'est qu'on a l'impression que les Autochtones, c'est chose du passé. Si on l'étudie en histoire, automatiquement, on se dit « Ah, ben c'est quelque chose qui appartient au passé, c'est pas quelque chose qui appartient au présent, tu sais. » Donc, souvent, puis je veux dire, il y a beaucoup de gens qui m'ont partagé ça quand ils me rencontrent, qui me disent comme « Ah, je savais pas qu'il y avait encore des Autochtones, tu sais, mais là, je te parle d'il y a comme 10 ans, peut-être, okay. là. » Ou, tu sais, mettons, « Oui, mais toi, t'es pas vraiment, je veux dire, tu parles français, puis tu conduis une voiture. » C'est comme des choses comme... On peut pas s'imaginer que, mettons, un Autochtone puisse être contemporain, avoir une vie contemporaine, tu sais. Où notre image est tellement teintée du précolonial, puis d'un précolonial qui est, mettons, caricatural, parce que, tu sais, on nous apprend, c'est comme dans n'importe quoi, là, si t'étudies un petit truc pendant une semaine, tu vas juste toucher la surface, tu sais. Fait que c'est pas spécifique aux Autochtones, mais, tu sais, si on fait pas un travail un peu plus d'approfondissement, ben on va juste retenir les choses les plus... caricaturales. Puis le problème, c'est que encore une fois, les profs qui l'enseignent l'ont pas appris eux-mêmes à l'école. Fait que ce qu'ils apprennent, c'est la caricature. Fait que là, ils apprennent la caricature de la caricature, tu comprends? Mm. Fait que encore aujourd'hui, on n'est pas capable d'imaginer qu'un Autochtone porte pas une coiffe ou, tu sais, a pas... Fait qu'on a encore des symboles très, très... Fait que voilà ce que je reproche un peu, c'est qu'on a une approche vraiment plus passéiste où l'intérêt des Autochtones n'appartient qu'au passé. Et qu'on simplifie, on simplifie de manière outrancière, tu sais, les réalités des premiers peuples, alors que juste au Québec, tu sais, juste comme si on prenait 2-3 nations, tu sais, puis qu'on s'intéressait, mettons, justement aux Atikameks ou aux Anishinaabe, ou tu sais, on dirait, ok, ben sur notre territoire ici proche, il y a telle nation. On va s'intéresser à eux, on va regarder un peu c'était quoi et c'est quoi maintenant leur structure politique, qu'est-ce qui est différent, qu'est-ce qui est ici, qu'est-ce qui est ça. Ben là, on aurait une vision un peu plus nuancée, actuelle, tu sais. Puis ça, je pense que ça nous servirait à nous parce que des fois, on se sent pas tout à fait autochtone si on n'a pas notre habit traditionnel, tu sais.
OK. Je m'en vais dans un peu une autre direction. En fait, je me demandais si vous considérez que ce qui s'est passé dans les pensionnats, c'est un génocide.
Ça a été... Quelle question difficile. Et en même temps, pas du tout. le résultat de toute l'enquête qui a été faite, là, Vérité Réconciliation, mm-hmm. est tout à fait clair et net. Là. Ils ont établi qu'il s'agit d'un génocide. Mm-hmm. Okay. certaines personnes, parce que génocide correspond à une certaine définition, là, t'sais, donc on a cherché à éliminer, je vais utiliser le mot juridique, là, indien, mm-hmm. Puis, on n'a pas été capable de s'assurer qu'il n'y ait plus d'Indiens. Fait qu'on s'est dit, ben, on va essayer d'enlever, si on veut, l'Indien à l'intérieur d'eux-mêmes, tu sais. Puis, comment on fait ça? Ben, on les prend petits, puis on les enlève de leurs racines, on leur apprend autre chose, et donc on enlève l'Indien en eux, tu sais. Je veux dire, le noir sur blanc, là, quand on a écrit la politique pour mettre sur pied les pensionnats, il était écrit noir sur blanc, ce qu'on souhaite ici, c'est tuer l'Indien au cœur de l'enfant. OK? Donc, parce qu'il y a eu plusieurs tentatives avant d'enrayer les Autochtones. Mais c'est drôle puis c'est pas drôle, mais il avait donné la possibilité aux Autochtones de s'affranchir de leur identité indienne si, en l'échange du droit de vote. Il disait, ben, si vous voulez voter, ben, t'sais, déclarer que vous n'êtes plus indien. Fait que ça a été une des premières tentatives, puis je pense qu'il faudrait relire, là, mais je pense qu'il y a un autochtone qui s'est prévalu de ça, parce que les gens voulaient pas, t'sais, perdre cette identité-là. Puis après, il y a eu plusieurs tentatives comme ça, où on disait, bon, si vous avez de l'éducation, si vous allez à l'université, si vous faites des, t'sais, vous pouvez pas... Mais ça a été maintenu longtemps, là. Mon grand-père, en fait, il est allé à l'université, mais il a caché le fait qu'il était indien, parce qu'il voulait pas perdre son statut. Fait que, pour la petite histoire, là, comme notre nom de famille commence par un O apostrophe, et que les Irlandais, il y en a beaucoup qui leur nom commence par un O apostrophe, ben, il s'est inscrit à l'université en disant qu'il était Irlandais, et en essayant de pas trop ébruiter le fait qu'il était à l'université. Parce qu'à cette époque-là, il pouvait pas être les deux, à la fois éduqué et indien. Tu comprends? Parce qu'un indien, c'est quelqu'un qui est sauvage, qui est pas civilisé. Donc, il y a eu plusieurs tentatives d'éradiquer les Autochtones. Tu sais, l'idée qu'on ait essayé par tous les moyens de se débarrasser des Autochtones, tu comprends, fait en sorte que, tu sais, pour moi, c'est une évidence que c'est ça qu'on souhaitait. On voulait plus qu'il y ait de distinction, on voulait plus qu'il y en ait d'Autochtones, tu sais. Puis s'il y en avait encore dans leur cœur, ben il fallait l'enlever, tu comprends. Fait que pour moi, c'est... Mais il y a aussi... Parce que je sais que ce terme-là est débattu quand même, mais il y a surtout, et ça je pense qu'il n'y a pas d'équivoque là-dessus, certainement un génocide culturel qui s'est opéré parce qu'on a arraché les enfants à leur culture, à leurs parents, ça va ensemble. Et après, ben, les enfants ne reconnaissaient plus. En fait, ils retournaient à la maison quand ils le pouvaient et ils n'étaient plus capables de parler avec leurs parents parce qu'ils avaient oublié la langue, tu sais. Et il y a énormément de choses qui passent à travers la langue. Dans les aspects culturels. Puis après, ben, juste pour te donner l'exemple, mon grand-père, ayant peur, eu peur de perdre son statut, a essayé de taire un peu cette identité-là, de garder ça sous silence. Puis ma mère, ben, elle n'a pas appris à parler l'alnomba, ndwamongan, ou l'abénaki, si tu veux, parce que mon grand-père ne voulait pas, t'sais, la mettre en danger, si tu veux. Et ma mère n'a pas pu me l'apprendre à moi, tu comprends? Mmh. Fait que cette perte culturelle-là, elle est réelle dans ma vie à moi, tu sais. Mm-hmm. Fait que génocide culturel, c'est tout à fait flagrant pour moi, tu sais. En plus du fait qu'on a perdu beaucoup, beaucoup de gens à travers les pensionnats, tu sais.
Mm-hmm. Puis, quelles sont les fiertés de votre peuple? Donc, soit les Premières Nations ou les Abénakis, je pense que vous êtes plus... Donc, ça va être mieux pour les Abénakis.
Oui. Je suis fière de... Bon, j'allais dire, les Abénakis, on est spéciaux, tu comprends? Mais il y a quelque chose de... Ben, moi, je te raconte ce qu'on m'a raconté, là, tu sais, mes tantes, puis tout ça, tu sais. On m'a dit, tu sais, Annie, les Abénakis, on est très musical, tu sais, on est très porté sur la danse, sur le chant, sur, tu sais, ça a toujours été très, très, très important pour nous, la musique. Puis très, très rapidement, avec la colonisation, mais il est arrivé des belles choses aussi, tu sais, je veux dire, il y a eu des échanges et tout ça, puis bon, il y a eu un band, tu sais, comme un peu comme une orchestre de fanfare, si tu veux, là, puis les Abénakis, tu sais, il y avait comme une espèce de band comme ça, tu sais, mais moi, je suis fière de ma nation dans le fait qu'elle est, il y a beaucoup, beaucoup de gens d'Abénakis qui sont connus pour leurs talents musicaux, tu sais, je pense notamment, elle s'appelle Malé, c'est Marie, on n'a pas de R en Abénaki, puis elle, tu sais, elle fait de la musique, elle fait du jazz, en fait, mais elle allie aussi toutes les traditions abénakises, le chant de tradition à l'intérieur de ça. Fait que, tu sais, comme cette créativité-là, puis il y a beaucoup de monde dans ma famille qui sont très artistiques, et tu sais, fait que... Puis une des choses aussi pour lesquelles on est reconnu, c'est nos paniers. On habitait, et on habite encore sur un territoire où il y a beaucoup de frênes. Puis on utilisait le frêne pour fabriquer des paniers. Puis ce qu'on appelle la vannerie, puis pendant très long moment, où est-ce qu'on avait perdu possibilité de survivre comme on le faisait avant la colonisation, tu sais, notre mode de vie était semi-nomade, donc T'sais, quand on nous a mis dans une réserve puis qu'on nous a dit « ça, c'est ce qui vous appartient, puis vous ne bougez pas de là », ben toute la manière qu'on vivait a été complètement chamboulée. Donc, on a survécu en fabriquant des paniers à partir du frein. Puis les paniers qu'on fait aujourd'hui sont juste fous, là. Ils sont magnifiques, ils sentent bon. Fait que ça me rend fière. Il y en aurait d'autres, mais je te nomme ceux-là.
Parfait. Merci beaucoup. Je pense que c'est ça qui va conclure notre entrevue. Merci d'avoir accepté de faire ça avec moi. J'ai trouvé ça super intéressant.
D'accord, oui. Ça veut dire de rien.